Bienvenue dans Starting Block, le magazine des émergences musicales de Radio Campus. Nous partons aujourd'hui en immersion au MAMA, le bien nommé marché des musiques actuelles qui vient de fêter ses 15 ans. Ce vaste salon prend ses quartiers automnales à Barbès, Pigalle et Montmartre. Pendant 3 jours, du 16 au 18 octobre, du centre FGO à l'Élysée-Montmartre, du Trianon à la machine du Moulin Rouge, les salles du quartier ont pulsé au rythme des conférences, des rencontres dédiées aux professionnels et des concerts ouverts à un large public. Dans ce starting block, nous découvrirons Raga Pop, groupe ukrainien entre cabaret et électropunk. Nous rencontrerons aussi Irina Lobanok, programmatrice musicale à l'Institut ukrainien, et Ivan Samokrutkin du label Odessa System. Puis Nabil Kanaan nous communiquera son enthousiasme mis au service de Mazar Music et Station Beyrouth qui se bat pour les musiques actuelles du Liban. Mais tout d'abord, partons à la découverte du duo Aïta Mon Amour, composé de la chanteuse-rappeuse Widad Mjama et le multi-instrumentiste électro Khalil Epi. Leur musique est le fruit de la fascination du duo pour la Haïta, cet art ancestral oratoire incarné par les Shirat, féministes avant-gardistes qui dénoncent les injustices. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe et vos projets satellites?
Oui, Dédé est aussi une ancienne rappeuse marocaine qui a commencé le rap depuis maintenant 20 ans et qu'on s'est rencontré avec le groupe Nordistan avec lequel qui a été fondé par Widad et Walid, et que nous, et après moi je les ai rejoints, et on a tourné pendant 8 ans.
Ouais.
Et voilà, moi je m'appelle Khalil, moi je suis plus tunisien, ce qui est mieux du coup que le Maroc, et je suis producteur, compositeur, je suis installé en France depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille sur plusieurs projets, j'ai un label sur Lyon qui s'appelle Chouka.
Qui est notre label d'ailleurs.
Qui est notre label, faut dire. Et on travaille beaucoup sur la scène électronique du monde arabe avec des artistes comme Amar 808, Dinar Abdelwahed, Arab Stasi, Anouri, plein d'artistes. Voilà.
La Haïta, c'est le cri, l'appel, la complainte. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ancestrale de cet art oral et des femmes chikates qui l'incarnent?
Alors, selon le peu de livres qui existent, lesquels j'ai pu consulter, on dit en fait que la Haïta a vu le jour quand les tribus natives autochtones amazighes ont rencontré les tribus arabes venues de la péninsule arabique. Donc en fait, c'est au XIIe siècle que cet art-là aurait vu le jour, mais dans sa forme actuelle, telle qu'on le connaît maintenant, ce n'est pas ces textes-là ou cette forme-là qui a vu le jour au XIIe siècle. Là, on raconte plus des choses qui se sont passées à la fin du XVIIIe, XIXe, et je pense que la dernière haït a été composée dans la moitié du XXe siècle, mais on n'est même pas sûr. Donc, comme vous avez dit, c'est un art dont la transmission s'est faite que oralement, donc il n'y a jamais eu de collectage de textes, on ne sait pas qui a écrit, qui a composé. La Haïta raconte un fait historique, il y a toujours un personnage, et le sujet, les sujets sont les sujets de la vie quotidienne, mais ça parle beaucoup de guerre, de perte, d'amour, et de la vie en fait, dans sa, comme j'aime toujours dire, dans sa complexité et sa banalité. Et les Shikhet, ces femmes-là, ont joué un rôle très important dans la transmission, le fait que c'est musique-là et cette oralité-là a survécu aux facteurs d'érosion qu'est le temps. Et ces femmes-là, elles ont cette particularité d'être des femmes hors des cases. Elles ne sont pas là, on les attend. J'aime les appeler aussi des féministes avant-gardistes parce que je pense qu'elles ne savaient même pas qu'elles incarnaient cette espèce de figure forte de femmes qui inspirent et qui on a envie de ressembler. Et quand elles ont fait le choix de cet art-là, elles sont souvent en rupture sociale et familiale. Elles sont complètement pointées du doigt parce que c'est des femmes qui font ce qu'elles veulent et qui sont libres.
Quelle est la musique traditionnelle au Maghreb? Quelle est sa place aujourd'hui? Et est-ce que ce brassage des genres avec l'électro ou le rap permet un revival chez les jeunes de cette musique trad comme vous l'incarnez?
Dans ce regain de se réapproprier un peu les musiques de chez soi pour les reprendre finalement dans le goût du jour, il y a eu Et une scène assez intéressante qui a vu le jour depuis une bonne vingtaine d'années avec la scène électronique arabe, elle est vraiment extrêmement intéressante. Et la scène, on parlait du rap, mais je pense même le rap, il est en train, instrumentalement et musicalement, il est en train d'essayer aussi d'aller vers quelque chose de plus, encore plus ancré, et que ça soit pas forcément... Donc il y a quelque chose qui arrive, et que heureusement, ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'enfermer. En fait, on s'est rendu compte que ce beau discours de mondialiser un peu, de se dire... l'ouverture n'est pas dans le fait d'oublier ses racines. Au contraire, c'est quand tu es bien accroché à tes racines que tu peux être ouvert vers les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train, j'espère, en train de revenir petit à petit.
والمولانا الخضر خوالي اهي وياه
Vous écoutez toujours Starting Block. Nous sommes au MAMA Convention des musiques actuelles, en compagnie cette fois d'Irina Lobanok et Ivan Samoktrukin. Ils nous parlent aussi de la résistance musicale ukrainienne.
Мене звати Іра Лобанок, я менеджерка музичних програм в Українському інституті.
Je m'occupe du programme musical à l'Institut ukrainien. On gère deux événements au MAMA. C'est la présentation du livre Ukrainian Field Notes de Gianmarco Del Re et le concert du groupe Ragapop. L'an dernier, on a rencontré une responsable du MAMA et on a décidé d'organiser pour la première fois un événement sur l'Ukraine dans le cadre du festival. Concernant le livre, c'est un recueil d'interviews réalisé par le journaliste Gianmarco Del Re auprès de 170 musiciens ukrainiens pendant la première année de la guerre. Et c'est important que les gens sachent comment la vie des musiciens et des travailleurs culturels a été bouleversée par la guerre.
Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par Poutine et la Russie, est-ce que ça a encore un sens de parler de musique? Ou est-ce que, au contraire, il est essentiel de parler de musique et de culture à cause de la guerre et parce que Poutine veut dénier la culture ukrainienne?
Évidemment, il y a des questions plus importantes aujourd'hui que la culture. La présence de l'armée dans notre quotidien, l'éducation et les questions sociales. Mais la culture, c'est la base. Mais je pense qu'à cause de l'invasion par Poutine de l'Ukraine, la culture ukrainienne en est renforcée. Les gens, et notamment les jeunes, vont à la rencontre de leur propre culture, à la recherche de leurs racines. En écoutant les musiques ethniques et folkloriques ukrainiennes, ils cherchent à comprendre les racines de leur culture. Et en même temps, beaucoup de musiciens et travailleurs culturels se retrouvent enrôlés dans l'armée pour le moment. D'autres musiciens ont dû changer de métier car c'est impossible en temps de guerre de pouvoir vivre de sa musique.
Comment s'organise maintenant la scène ukrainienne et comment s'organise la résistance musicale à l'extérieur de l'Ukraine?
Je peux dire que, par exemple, quand la guerre a commencé, c'était très difficile pour tous les musiciens de créer la musique et faire la musique parce qu'il y en avait les problèmes beaucoup plus importants. Mais maintenant, après 2 ans de la guerre, il y a, en Europe, il y a dans les villes différentes, il y a les clubs qui étaient ouverts par les Ukrainiens comme Berlin, Barcelone. Il y a les événements qui sont gérés par les Ukrainiens à Paris, dans les différentes capitales européennes. Et en général, les artistes ukrainiens s'organisent bien à l'extérieur de l'Ukraine. Et dedans de l'Ukraine, ça va aussi bien, et c'est plutôt à capitale Kiev et maintenant. Et la vie culturelle et musicale est vraiment intense.
Bonjour Lucas, tu manages Ragapop. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe?
C'est un groupe qui est composé de 3 musiciens et musiciennes. 2 sont issus du groupe d'art d'auteur qui vient du Dart Theater à Kiev. Ils sont aussi proches d'un autre groupe qui s'appelle Dacha Braha. Ils font une musique post-punk électronique lofi, c'est comme ça qu'on le définit. Issus de plein d'univers musicaux différents. Il y a sur scène une chanteuse principale qui est Ruslana et une choriste qui s'appelle Ghana, qui elle aussi a un rôle de performeuse et c'est un spectacle un peu burlesque.
Падають раптом в темну безодню стрімглау, де вже нема під ногами ґрунту. пха, юдоділ неподобних до безхосених же діл, та на найвищу високість вибравшись, падають раптом в темно безодню стрімглав, де вже нема під ногами грунту твердого. Горе вам, горе, людські покоління, поки живі ви, мов тінь та марна. Бачиш, бо ви кому більше є щастя, я коли сам себе чую щасливим. Родіти рана пха, юдоділ неподобних до безхосених же діл, та на найвищу високість вибравшись, падають раптом в темно безодні стрімглав, де вже нема під ногами грунту твердого. Гордості родіти рана пха, юдоділ неподобних до безхосених же діл, та на найвищу високість вибравшись, падають раптом в темно безодні стрімглав, де вже нема під ногами грунту твердого.
Clôturer ce tour d'horizon, Mama rencontre enfin avec Nabil Kanaan de Mazar Music et Station Beyrouth, qui nous parle des liens qu'il tisse entre les acteurs français et la bouillonnante scène des musiques actuelles de ce Moyen-Orient, aussi résistant et résilient que vibrant. Il nous fait aussi découvrir Rust en sélection au Mama.
Je suis le directeur d'un lieu qui s'appelle Station Beyrouth. Donc c'est une ancienne usine à bois que j'ai reconvertie il y a une douzaine d'années avec une programmation de centre culturel, art visuel, art de la scène. On a fait beaucoup de choses jusqu'à 2013-2019. 2019, la crise a commencé au Liban avec révolution, explosion de ports, corona, dévaluation de l'économie et ce qui se passe maintenant. Mais en 2019, déjà, on s'était dit on va réduire le champ des disciplines pour se focaliser à soutenir les musiques actuelles. Donc, on a lancé dans un premier temps Shuruk, une plateforme qui va aider dans le développement et la découvrabilité des artistes. Ça a aidé comme pilote de cette vision. Et on s'est dit il y aurait besoin quand même de renforcer tout ça avec un peu de structuration quand même. Donc l'idée de développement. Et Shuruk a été le pilote de ça. L'Institut français a été partenaire, mais comme avec d'autres aussi, comme des fonds régionaux, AFAC, Maurid, qui ont soutenu. Et ça a mené à une réflexion où l'Institut français est revenu vers nous l'année dernière en disant on aimerait vous soutenir à monter un dispositif de structuration, d'accompagnement, de promotion des musiques actuelles du Liban. Et ils ont invité plusieurs partenaires à réfléchir là-dessus, dont le Festival Beirut and Beyond, un lieu au nord du Liban qui s'appelle Stereo Kawalis, et nous comme Station Beyrouth, donc lieu, salle de diffusion, à centre culturel, hub, à Beyrouth. Mais il y a aussi d'autres partenaires, comme un studio, Tune Fork Studios, il y a Ruptured Label, d'autres acteurs de la filière. Et de là est sortie l'idée de monter Massar. Massar Music Liban, qui est... Massar, ça veut dire cheminement, pathways en anglais, cheminement, avec en tête de comment professionnaliser la scène avec un dispositif qu'on est en train de construire qui s'articule sur trois axes, formation, production, diffusion. Et Rust a été sélectionné officiellement dans la programmation du MAMA. Donc on a monté une délégation, une présence pardon, sur le MAMA, sur le salon, avec un panel qu'on vient de faire sur les marchés musicaux de la Méditerranée. On a un keynote où on présente Massar. On a fait une visite de marché ces deux derniers jours pour créer du lien, de l'échange aussi avec des structures de la filière parisienne. On a rencontré vraiment des... pas seulement parisiennes, françaises, il y en a des gens qui, je pense, comprennent qu'il y a besoin de développement, de découvrabilité, mais ils comprennent aussi le côté dignité de la chose. Et on est vraiment touchés par des gens qui... ou des structures et des personnes qui comprennent, en fait, comme toi, que c'est des projets porteurs de valeur aussi.
Alors, le Liban est un pays très riche culturellement, aux 18 communautés représentées, une terre d'accueil des réfugiés. Mais le Liban est meurtri, tu l'as évoqué tout à l'heure. On pense à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. On pense au marasme économique qui touche le pays. Et on pense aujourd'hui très fort au Liban comme victime de la furie guerrière pour crime de fraternité envers la Palestine. Comment, dans ces conditions, on arrive encore à pouvoir parler de musique, ou est-ce d'autant plus vital pour vous de continuer le combat musical ?
100%, il faut continuer, bien sûr. Il faut, on en a parlé avant de venir ici, mis à part... la peur déjà de prendre la route Beyrouth-Ville-Aéroport, parce qu'il y a beaucoup de bombardements dans ce secteur-là. C'est important de continuer. Nous, on dit toujours en tant que station, mais je pense que je partage ça avec mes collègues du secteur, que notre combat se fait à travers l'art et la culture. D'une part, pour partager la richesse culturelle qu'on a dans toute cette région arabophone, on est quand même 450 millions de personnes. Le Liban est un petit pays là-dedans qui punche beaucoup plus haut que son poids et qui a toujours été un centre, justement, comme on l'a dit avant, pour la création. Là, on passe une période très difficile. C'est important de continuer à travers l'art et la culture. Les artistes au Liban ne sont pas nécessairement tous politisés, mais quand on est né arabe, on est quelque part automatiquement politisé. Que les événements ont pris une tournure beaucoup plus sauvage au Liban. Les artistes, beaucoup de gens sont en mode urgence, solidarité, pour aider plus qu'un million de déplacés quand même dans le pays. Donc nous, on a converti le lieu en tant que centre de stockage, de distribution des besoins d'urgence, que ça soit matelas ou vivres. Et les gens, les volontaires qui sont organisés autour de ça viennent de la communauté créative. On a le percussionniste Anwar Brahim qui a son atelier chez nous. Ben, lui, il a monté une équipe de volontaires autour de lui. Il y a aussi TuneFork Studios, il y a Beirut Synth Center, Boutique Hub. Il y a différents acteurs de la scène culturelle qui s'organisent chez nous, mais aussi chez eux, pour aider à Tripoli, nos amis de Stereo Kawilis, Roman aussi. Mais tout le monde essaye d'aider parce qu'on est dans l'urgence.
Et pour finir, Nabil, est-ce que tu peux nous présenter un peu Rust, donc qui joue au MAMA, dans le cadre du MAMA, vendredi soir?
Oui, on est très content de défendre ce groupe. C'est un duo syro-libanais, Petra Hawi et Hani Manja. C'est de l'électro-tarab.
Ah. اسافر حتة تانية ابني عالم في الشتات ويبقى عندي مرة تانية هات هدايا وخد حاجات هات هدايا وخد حاجات السلام السلام من يولد تشنجل لتا تشنجل لتا السلام السلام من يولد تشنجل لتا تشنجل لتا دياسبوريتا باسبوريتا شنجن لتا شنجن لتا دياسبوريتا باسبوريتا شنجن لتا شنجن لتا
Shengen aletta